Le journal avec vous, Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. La République n'a pas ménagé ses moyens pour la Guyane et ce n'est pas terminé. Le Premier ministre Jean Castex, en visite à Cayenne, salue les efforts et l'engagement de la République au profit du département le plus touché à ce jour par la crise sanitaire. Et il appelle la population à rester vigilante. En métropole, porter le masque ou pas dans les lieux publics clos ou à l'extérieur, le débat rebondit après un concert hier à Nice. Des médecins demandent aux autorités un message plus clair à ce sujet. Dans ce journal également, les patrons de discothèques qui manifestent et demande au gouvernement l'autorisation de rouvrir leurs établissements. Même chose outre-Manche pour les théâtres britanniques, dont 70% menacent de mettre la clé sous la porte. Situation de plus en plus tendue au Mali, où l'opposition rejette ce soir les concessions du président Keïta. Le Paris Saint-Germain qui retrouve le chemin des stades, en ce moment même, au Havre. Et puis le temps, toujours estival demain.
France Inter.
Exprimer à la Guyane la solidarité et le total engagement de la République dans la crise du Covid pour le Premier ministre Jean Castex arrivé à Cayenne cet après-midi. Il y a le symbole, son premier déplacement hors métropole pour un département d'outre-mer, mais il doit y avoir aussi du concret. La promesse que la Guyane sera dotée des moyens dont elle a besoin pour faire face. Jean-Jérôme Bertolus, c'est une visite au pas de charge qu'a commencé Jean Castex, un peu d'ailleurs à l'image de ses premiers jours à Matignon.
Un déplacement express de Jean Castex, moins de 8 heures sur place. L'occasion pour le nouveau Premier ministre de réfuter le sentiment d'abandon d'une partie de la population guyanaise en visitant tous les dispositifs mis en place par l'État pour lutter contre l'épidémie. Mais le Premier ministre veut aussi en appeler à la poursuite de la mobilisation des Guyanais et des Français contre la crise du Covid.
Je peux comprendre parfaitement l'impatience de la population guyanaise face aux contraintes qui lui sont faites. Pourtant, il vous faudra rester vigilant.
Avec un couvre-feu tous les jours en vigueur dès 17h, le samedi à 13h et qui dure tout le week-end, les Guyanais, alors que la crise sévit depuis début mars, trouvent le temps long.
Jean-Jérôme Bertolus à Cayenne avec Gilles Gallinaro. La Guyane où le couvre-feu, bien sûr, reste en vigueur. Certaines communes sont toujours confinées. La polémique à Nice au lendemain d'un concert du DJ Viavner sur la promenade des Anglais. 5000 personnes selon les organisateurs, beaucoup plus selon ceux qui dénoncent l'irresponsabilité des fêtards qui n'ont respecté aucune consigne de sécurité sanitaire. Le maire de Nice, Christian Estrosi, demande d'ailleurs à l'État d'imposer au plus vite le port du masque, y compris pour les événements extérieurs, en ajoutant qu'il sera désormais obligatoire pour tous les événements se déroulant sur sa commune. De façon générale, ce type de manifestation festive est toujours un rassemblement à risque. Rien à voir avec les lieux clos où le danger de contamination est bien plus fort. Et c'est la raison pour laquelle pour les médecins, le message doit être clair. Il faut partout un masque en cas d'affluence et il faut le porter impérativement dans un espace fermé. Ce que souligne Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Elle est au téléphone de Victor Maté.
On sait que le masque est efficace, il est d'autant plus efficace qu'il est porté par tout le monde. Et c'est ça que nous demandons. Nous demandons un message clair de la part des autorités sanitaires, rendre le masque obligatoire dans tous les espaces publics clos, c'est-à-dire essentiellement les magasins, les transports, les lieux de rassemblement qui sont très dangereux, vous savez, qui ont été à l'origine des clusters, souvent le début des épidémies dans beaucoup de pays. On sait que ces espaces clos favorisent énormément la transmission du virus d'une personne à l'autre. Et même avec les nouvelles connaissances scientifiques, on sait que le virus peut rester en suspension, aller sur des distances plus importantes que 1 mètre, 2 mètres. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de masques. C'est donc une mesure qu'il faut absolument prendre.
Voilà l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, l'une des signataires de l'appel des médecins publié ce matin dans Le Parisien dimanche. Tous masqués, si possible, et tous testés, c'est possible depuis hier en pharmacie, et très facile. Une goutte de sang au bout du doigt, et en quelques minutes, on sait si on a développé des anticorps. Les attentes étaient si fortes que beaucoup de pharmacies ont été prises de court, comme celle-ci à Paris, où l'information manifestement n'était pas bien passée.
Ce matin, j'ai ouvert, j'ai eu une dizaine de personnes qui sont venues me demander le test. Ils se sont dit, je vais aller me faire tester. Ah, lui, il m'a carrément montré le monsieur qui avait le test Covid sur son téléphone. Il m'a dit, voilà comment ça se présente. Alors il m'a dit, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a eu le Covid. Et moi, j'étais prise au dépourvu. Je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai attendu ma préparatrice qui, elle m'a dit, elle, parce qu'elle travaille aussi dans une autre pharmacie, elle m'a dit non, on n'a pas ces tests. Et on ne sait pas où se les procurer. Et je n'étais pas au courant, donc je suis allée quand même sur Internet pour voir. Et comment ça s'organise? Parce que si on fait les tests, je pense qu'on est rémunéré, je ne sais pas comment ça marche. Comme les vaccins anti-grippe et tout ça, peut-être, je ne sais pas.
Quelle a été la réaction des clients quand vous leur avez dit, ben non, je n'ai pas les tests?
Ah ben, ils étaient un peu pas très contents, parce qu'ils se sont dit, mince, c'est une pharmacienne, elle n'est pas au courant de ce qui se... Donne quoi, voilà.
Une pharmacienne au micro de Jean-François Fernandez. Des tests qui peuvent coûter de 15 à 20 euros et ne sont pas remboursés, en précisant qu'un résultat positif doit être confirmé en laboratoire et qu'il n'autorise pas, bien sûr, à se promener sans masque. À propos de tests, le gouvernement confirme qu'il imposera dans les prochains jours des tests virologiques dans les aéroports à tous les voyageurs arrivant de pays à risque. Et puis on parlait d'un concert en plein air hier soir à Nice, de quoi agacer encore un peu plus les patrons de discothèques qui, eux, n'ont toujours pas rouvert leurs établissements. 200 d'entre eux manifestaient tout à l'heure à Paris devant le ministère de la Santé. Parmi eux, Madani Benyaya, patron d'une discothèque au Mans.
La jeunesse, en fait, organise des soirées privées. On les voit sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, enfin, toutes les stories qu'on peut voir. Et évidemment, dans ce que l'on voit, ben, personne n'a de masque. Ça boit de l'alcool à gogo. Évidemment, il y a tous les risques liés à la drogue, à tous les produits illicites. On comprend pas, en fait, qu'on laisse notre jeunesse sans cadre. Alors que nous, discothèque, en fait, on est un cadre pour elle.
Ces soirées sauvages, finalement, enfin privées, c'est pire que ce que vous pouvez proposer, vous.
Nous, on a proposé avec nos syndicats un protocole sanitaire qui est très strict, parce qu'en fait, il va au-delà du protocole qui était proposé pour les bars et les restaurants. Et ce qu'on comprend pas, effectivement, c'est qu'il y avait un accord qui était sur le point d'aboutir il y a une semaine, et changement de gouvernement, enfin, en partie, puisque beaucoup de ministres ont été reconduits, et là, revirement de situation. On a eu l'impression, en fait, de se faire avoir.
Voilà, les discothèques qui représentent environ, en France, 100 000 salariés.
France Inter. Yves Decamp.
Les discothèques n'ont pas rouvert, les théâtres en théorie si, mais beaucoup n'ont pas pu s'y résoudre compte tenu des consignes qui limitent les entrées. Et c'est presque pire encore outre-Manche, où les théâtres britanniques, qui ont aussi baissé le rideau mi-mars, ne sont toujours pas fixés sur la suite. 70% d'entre eux pourraient être en faillite d'ici la fin de l'année. Maxence Peigné à Londres.
Dans les rues de Londres, les pubs font à nouveau couler la bière, mais les box-office sont désertés.
À cette heure-ci, un samedi, il y aurait une foule de gens sur le trottoir. Mais là, c'est complètement vide et ça me brise le cœur.
Face aux portes closes de son théâtre L'Apollo, Nika Burns ne cache pas son inquiétude.
J'ai perdu des millions. On ne sait toujours pas quand on sera autorisé à rouvrir. Et je ne veux pas avoir à licencier mes équipes qui sont exceptionnelles.
Elle possède 6 des plus célèbres salles de spectacle londoniennes où travaillent près de 1000 personnes. Leurs emplois sont désormais à risque, comme pour 2/3 des travailleurs du secteur. Le gouvernement a promis une aide de 1,75 milliard d'euros pour la culture. Mais son attribution fait débat. Phil Pemberton est représentant syndical.
Le montant est impressionnant, mais il n'est pas destiné aux travailleurs. Donc peut-être que les théâtres pourront suivre, mais on se demande si les intermittents s'en sortiront.
L'obstacle majeur à la réouverture, c'est la distanciation sociale. Économiquement impossible selon les théâtres, qui souhaitent en être dispensés au même titre que l'aviation. Londres, Maxence Peigné, France Inter.
Nulle part en Europe, le moment n'est venu de relâcher la pression alors que de nouveaux foyers épidémiques apparaissent. Ce soir, l'Espagne annonce qu'elle reconfine une partie de la Catalogne et la Hongrie se ferme à la majeure partie du monde, aux Africains, aux Asiatiques, moins la Chine et le Japon. Il y a quelques pays d'Europe de l'Est classés en zone rouge. Pour le gouvernement de Viktor Orban, le taux d'infection étant en baisse, pas question de prendre le moindre risque. Enfin, à l'instant, l'autorité palestinienne annonce qu'elle décrète le couvre-feu dans les territoires. Au Mali, après une nouvelle journée de troubles, le leader de la coalition d'opposition, l'imam Diko, appelle au calme. Les affrontements de ces dernières 24 heures entre les contestataires et les forces de l'ordre ont fait au moins 4 morts. C'est le bilan officiel. Bilan très sous-estimé selon l'opposition, dont le chef de file, Mahmoud Diko, a pris la parole cet après-midi à l'occasion des funérailles. Louise Baudet, il appelle ses partisans au calme, mais il rejette les pseudo-concessions du président Keïta.
Oui, Mahmoud Diko et sa silhouette toujours vêtue de blanc, dignité. critère religieux devenu principal opposant « ne provoquez personne, ne vous attaquez à personne » a lancé tout à l'heure le leader de la contestation aux fidèles réunis dans sa mosquée, épicentre d'affrontements dont la violence a été relayée sur les réseaux sociaux, sol jonché de cartouches vides, de pierres, de pneus brûlés et barricades de nouveau dressées ces dernières heures autour de la mosquée pour protéger l'imam, assure ses soutiens, car plusieurs leaders de la contestation ont été arrêtés parallèlement aux concessions faites par Ibeka, notamment la dissolution de la Cour constitutionnelle critiquée pour avoir invalidé des résultats électoraux favorables à l'opposition. Le président Keïta ouvre aussi la voie à des législatives partielles après le scrutin contesté de mars dernier. Mais rien qui suffise à éteindre l'incendie, le marasme économique, les accusations de corruption, l'État incapable d'enrayer les violences djihadistes et intercommunautaires dans le centre et le nord du pays. Tout cela alimente l'escalade et inquiète les alliés du Mali qui, France en tête, craignent un nouveau foyer de déstabilisation dans cette poudrière sahélienne où sont impliqués les 5100 soldats de la force Barkhane.
Louise Baudet, retour en France avec ce week-end le retour au stade des supporters en jauge limitée, bien sûr. Dommage d'ailleurs pour les Havrais qui sinon seraient venus en masse voir les stars du PSG. C'est un match amical qui vient tout juste de commencer. Antoine Martin, une première répétition en fait pour les Parisiens.
Exactement, et déjà 1-0 pour les Parisiens grâce à un but de Mauro Icardi, mais ils y sont quand même privilégiés, ces Normands qui ont pu venir ici au stade. Ils étaient plus de 10 000 à faire des demandes de billets. Les places sont parties en moins de 10 minutes ici au Havre, et les Normands qui garnissent un petit peu ces tribunes sont les premiers en Europe et en France depuis l'épidémie de Covid-19 à venir garnir des tribunes, à venir voir un match de football. Un peu, la France est en période de test maintenant, et on a été les premiers à reporter, à annuler le championnat comparé à nos aux autres championnats européens qui ont continué à jouer. Eh bien, les Français sont les premiers à reprendre ici avec du public, et il y a 5000 personnes qui sont venues garnir les tribunes avec du protocole au niveau des masques qui ont été distribués, une file également d'entrée et de sortie dans le stade et du gel hydroalcoolique à la disposition de tous les supporters. Après 10 minutes, c'est le PSG qui mène 1-0 au Havre.
Antoine Martin au Havre, merci. Bonjour, bonsoir Cécilia Arbona.
Pardon pour cette intrusion sauvage, Yves Decamps. Je prends le pouvoir en studio pour un coup de chapeau, des bras et des merci au nom
c'était
des auditeurs.
C'était pas dans les titres, ça.
C'était pas du tout annoncé, c'est une surprise. Au nom des auditeurs et de toute la famille de France Inter, juste avant le grand clap de fin, ce soir, c'était votre ultime représentation. Il y en a eu...
J'en sais pas, 3765 au hasard, hein, complètement.
Vous partez en vacances, puis à la retraite en ce dimanche chaud d'été, après une vie de radio qui a démarré, souvenez-vous, avec la doudoune dans le froid, c'était périgueux, avril 86.
Jusqu'à 30 cm de neige ce matin dans le sud et l'est du département, on n'avait jamais vu ça pour un 9 avril. Tout le Sarladais et une partie de la périphérie de Périgueux sont privés d'électricité. Des arbres sont arrachés un peu partout. Yves Decamps, Radio France Périgord, pour France Inter.
Oh là là, la voix...
C'est presque la même.
Jeune.
Aujourd'hui, vous avez un polo pour nous dire au revoir et une autre grande voix que vous avez beaucoup fréquentée dans cette grande maison ronde. 25 ans que vous êtes là, Yves Decamps. Une autre grande voix d'Inter a tenu avec les yeux pleins de larmes à vous dire bye bye, Bernadette Chamonaz.
Yves, je te connais depuis des années, des décennies même. Ce qui est remarquable vraiment chez toi, c'est que pendant toutes ces années, je ne t'ai jamais entendu dire un mot plus haut que l'autre, jamais vu en colère, c'est rare, surtout dans une rédaction qui est toujours survoltée. Et ton humour, pince sans rire, ton regard décalé dans tes journaux, mais dans la vie aussi de tous les jours. Travailler avec toi, Yves, c'est un bonheur. Toujours rassurant, pas de stress. Ou alors s'il y en a, tu ne le fais pas subir aux autres. Yves, tu es la force tranquille. Je te souhaite de très belles années à venir. Je t'embrasse.
Ah bah, donc,
elle n'est pas gaga de vous, Bernadette Chamonaz. La retraite,
si
en
continue,
tout cas,
je vais rester. Hein.
La retraite pour vous, ce sera à Loctudy, dans le Finistère Sud. En attendant, vous allez reprendre peut-être votre TGV pour Rennes tout à l'heure, au moment des au revoir sur le quai de gare. À glisser dans votre bagage notre modeste cadeau pour ce soir. Un Renault, tiens, des années 80.
Tiens,
celui que vous préférez.
Vous savez ça. Laura.
Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas.
Vous savez quoi, Yves
Decamps ? Merci de pas avoir mis le tout dernier, la toute dernière chanson de Renaud.
Oui, je sais que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas le dernier
Comme
Renaud.
Comme quoi, il ne faut pas faire le match de trop, jamais.
Mais vous, ce n'est pas le dernier journal de trop. C'est le journal qui nous a tous bouleversés. Vous savez ce qu'on dit de vous dans les couloirs de France Inter, Yves Decamps ?
Non.
On vous compare à une voiture de luxe, une bagnole. Pas pour votre carrosserie, pas pour votre fière allure.
J'aurais bien aimé.
Bah oui, mais vous êtes encore bien conservé. Faire équipe avec Decamps, c'est confortable et élégant, dit-on. Faire équipe avec Decamps, c'est comme rouler dans une Rolls. Alors, bonne route. N'oubliez pas que nous sommes tous ce soir techniciens, réalisateurs, producteurs, animateurs, journalistes, un peu beaucoup, Morgane de vous.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Un grand merci en tout cas à tous, tous les personnels de France Inter et les auditeurs, bien sûr, fidèles depuis toutes ces années, toujours plus nombreux. Hein, ce fut un grand honneur et un plaisir de travailler dans ces studios de la Grande Maison Ronde et avant, donc vous l'avez dit à Cécilia, dans les radios locales. Et bonne chance bien sûr à Frédéric Barrère qui prendra les rênes des 13h et 19h du week-end à la rentrée. Salutations distinguées à tous.